Covid long. Une pandémie prévisible depuis 1889. En 2020, le monde a découvert avec stupeur que le SARS-CoV-2 pouvait laisser des séquelles durables. Fatigue écrasante, brouillard cognitif, palpitations, douleurs errantes. Pourtant, ce scénario s'est déjà produit au moins 5 fois depuis 1889. Grippe russe, grippe espagnole, poliomyélite, Epstein-Barr, SRAS-1. Chaque pandémie a engendré une vague de malades chroniques. L'histoire médicale nous avait prévenus. Nous n'avons simplement pas écouté. Un autre précédent français mérite d'être lu dans cette histoire. Le chikungunya de la Réunion en 2005 à 2006. Cette épidémie a surtout montré une dominante articulaire, mais elle a aussi laissé fatigue, céphalée, limitations sociales et qualité de vie altérées chez une partie des personnes exposées. 1889. La grippe russe. Le premier Covid long, documenté. En 1889, une pandémie partie de Russie se propage à travers l'Europe en quelques semaines. On l'appelle la grippe russe. Elle tue environ 1 million de personnes dans le monde. Mais ce qui frappe les médecins de l'époque, c'est ce qui se passe après la phase aiguë. Des milliers de patients restent malades pendant des mois, parfois des années. Les descriptions cliniques de l'époque sont saisissantes de familiarité. La fatigue écrasante persistante, incapacité à reprendre le travail, troubles de la mémoire et de la concentration, palpitations au moindre effort, douleurs musculaires diffuses. En 1892, le neurologue britannique Sir William Gower décrit des patients qui, un an après leur grippe, restent épuisés par le moindre effort et incapables de retrouver leur vitalité antérieure. Plus d'un siècle plus tard, une revue publiée dans Tran in Immunologie par Akiko Iwasaki et ses collègues de Yale a retracé cette histoire oubliée. Leur conclusion est sans ambiguïté. Les séquelles chroniques post-infectieuses ne sont pas un phénomène nouveau. Elles sont documentées depuis au moins 137 ans. Le saviez-vous? L'agent causal de la grippe russe de 1889 fait encore débat. Certains chercheurs soupçonnent un coronavirus humain, OC43, plutôt qu'un virus influenza. Ce qui en ferait le tout premier Covid long, au sens littéral du terme. 1918. La grippe espagnole et l'encéphalite léthargique. La grippe espagnole de 1918 a tué entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde. Mais son héritage le plus troublant est peut-être ce qui s'est passé ensuite. Une épidémie d'encéphalite léthargique. Une inflammation du cerveau provoquant une somnolence extrême, des troubles psychiatriques et chez certains patients, un parkinsonisme irréversible. Le neurologue Oliver Sack a rendu célèbre ses patients dans son livre Awakening, 1973. Des hommes et des femmes restaient endormis pendant des décennies après leur infection. Mais au-delà de ces cas spectaculaires, des milliers de survivants de la grippe espagnole ont développé des formes plus discrètes de séquelles chroniques. Fatigue persistante, troubles du sommeil, difficultés de concentration, instabilité de la fréquence cardiaque. Ces descriptions cliniques de 1919 à 1925 sont pratiquement interchangeables avec celles du Covid long, actuel. La différence? En 1920, la médecine ne disposait ni de l'IRM, ni du dosage des cytokines, ni des études de cohorte à grande échelle. Les patients ont été oubliés. Une revue de 2021 dans Kidney and Blood Pressure Research souligne que la grippe espagnole a provoqué des atteintes rénales, cardiaques et neurologiques chroniques. Les mêmes organes cibles que le SARS-CoV-2. Le virus change, le schéma persiste. 20e siècle. Polio, EBV et les premières descriptions de l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique. En 1955, une épidémie mystérieuse frappe le Royal Free Hospital de Londres. Des infirmières et des médecins développent une fatigue invalidante, des douleurs musculaires et des troubles cognitifs après une infection virale banale. L'épisode sera baptisé maladie du Royal Free et deviendra l'un des cas fondateurs de ce que l'on appelle aujourd'hui l'encéphalomyélite myalgique syndrome de fatigue chronique. Tout au long du XXe siècle, le même scénario se reproduit avec différents agents infectieux. Le virus Epstein-Barr, responsable de la mononucléose, laisse environ 10% des personnes infectées avec une fatigue chronique persistante à 6 mois. Un taux remarquablement proche des estimations actuelles pour le Covid long. La poliomyélite produit le syndrome post-polio chez 25 à 40% des survivants. Fatigue nouvelle, faiblesse musculaire progressive et douleurs articulaires apparaissant des décennies après l'infection initiale. Le SRAS-1 de 2003 laisse un quart des survivants avec une fatigue chronique, des troubles du sommeil et des difficultés de concentration 1 an après l'infection. Une cohorte de Toronto suivie jusqu'en 2007 montre que 27% d'entre eux remplissent les critères de l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique. Une analyse comparative publiée en 2025 dans Biomédecine a formalisé les chevauchements entre le Covid long et l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique. Environ la moitié des personnes atteintes de Covid long remplissent les critères diagnostiques de l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique. Les deux conditions partagent le malaise post-effort, les troubles cognitifs, les troubles du sommeil non réparateurs et l'intolérance orthostatique. Une seconde revue, publiée dans International Journal of Molecular Science, va plus loin et intègre la fibromyalgie et le syndrome de la guerre du Golfe dans cette même famille de syndromes post-infectieux ou post-exposition. Les symptômes cardinaux fatigue, douleur, troubles cognitifs, troubles du sommeil se recoupent de façon frappante. Les mécanismes biologiques. Un fil rouge à travers les pandémies. Ce qui rend cette répétition historique encore plus frappante, c'est que les mêmes mécanismes biologiques émergent à chaque fois. Une revue publiée en 2026 dans Immunotargène Thérapie par Svetlana Blitzstein, neurologue spécialiste du syndrome de tachycardie orthostatique posturale et de la dysautonomie post-infectieuse, identifie quatre voies communes au Covid long, à l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique et au syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Persistance virale. Auto-immunité. Neuro-inflammation. Dysautonomie. La persistance virale. Des fragments du virus ou le virus entier sous forme réplicative restent logés dans les tissus, intestins, cerveau, ganglions, bien après la phase aiguë. Ce phénomène a été documenté pour le SARS-CoV-2, l'Ebola, le virus Zika et le virus Epstein-Barr. Ces réservoirs entretiennent une inflammation chronique locale. L'auto-immunité. L'infection déclenche la production d'auto-anticorps. Des anticorps qui attaquent les propres tissus du patient au lieu du virus. Ce mécanisme est documenté dans le Covid long. Anticorps antirécepteurs adrénergiques et muscarinique, dans l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique et dans le syndrome de tachycardie orthostatique posturale post-infectieux. La neuro-inflammation. L'infection active les cellules immunitaires résidentes du cerveau, la microglie, qui reste en état d'alerte chronique. Ce mécanisme produit le brouillard cognitif, la fatigue centrale et les troubles du sommeil. Des symptômes cardinaux du Covid long, comme de l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique. La dysautonomie. Le système nerveux autonome, celui qui régule automatiquement la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la digestion, se dérègle. Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, syndrome de tachycardie posturale, est l'une des manifestations les plus fréquentes, présentes dans le Covid long, l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique et de nombreux syndromes post-infection antérieure. L'article de Blitzstein et al. Propose un cadre unificateur. Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique et le Covid long ne sont pas trois maladies distinctes, mais trois expressions d'un même processus neuro-immunitaire post-infectieux. Cette hypothèse, si elle se confirme, pourrait transformer la recherche en orientant les essais cliniques vers des cibles communes plutôt que vers chaque syndrome séparément. Pourquoi la médecine n'a pas vu venir le Covid long? Si les syndromes post-infectieux chroniques existent depuis 1889, pourquoi le monde médical a-t-il été pris au dépourvu par le Covid long? La réponse tient en un mot. La marginalisation. L'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique, la maladie qui ressemble le plus au Covid long, a été systématiquement sous-financée, sous-enseignée et contestée pendant des décennies. Avant 2020, les Instituts nationaux de la santé américains, NIH, consacraient moins de 15 millions de dollars par an à la recherche sur l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique, contre plus de 3 milliards pour le VIH-SIDA. La plupart des facultés de médecine ne consacraient aucun cours à cette maladie qui touche pourtant entre 800 000 et 2,5 millions de personnes aux États-Unis. Cette marginalisation a eu des conséquences directes. Pas de biomarqueurs validés. Sans financement, pas de recherche fondamentale. Sans recherche fondamentale, pas de tests diagnostiques. Sans tests diagnostiques, les patients sont renvoyés vers la psychiatrie ou l'errance médicale. Pas de cohorte longitudinale. Les survivants des pandémies précédentes n'ont presque jamais été suivis sur le long terme. Les données manquantes de 1918, 1955 ou 2003 auraient pu prédire l'ampleur du Covid long. Pas de cadre conceptuel. La médecine a séparé le Covid long, l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie et le syndrome de tachycardie orthostatique posturale en silos étanches. L'idée qu'il appartienne à une même famille de syndromes post-infectieux commence seulement à être formalisée. Un précédent qui devrait alerter. La revue d'Iwasaki et al. Souligne que l'absence de préparation face au Covid long n'est pas un imprévu. C'est le résultat prévisible de décennies de négligence envers les maladies chroniques post-infectieuses. Ignorer l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique pendant 40 ans a privé la médecine des outils pour anticiper la prochaine pandémie. Ce que nous savons, et ce qui reste incertain. Ce qui est établi. Les syndromes post-infectieux chroniques sont documentés depuis 1889. Le Covid long, l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique et le syndrome de tachycardie orthostatique posturale partagent des symptômes cardinaux identiques, fatigue, malaise post-effort, troubles cognitifs, dysautonomie. Quatre mécanismes biologiques communs sont identifiés. Persistance virale, auto-immunité, neuro-inflammation, dysautonomie. Ce qui est probable. Ces syndromes appartiennent à une même famille biologique de maladies neuro-immunitaires post-infectieuses. Environ 50% des patients Covid longs remplissent les critères de l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique. Ce qui reste incertain. Les proportions exactes de chevauchement varient selon les études et les critères utilisés. Les mécanismes sont identifiés mais leur hiérarchie, lequel est moteur, lequel est conséquence, reste débattue. Aucun traitement curatif n'a encore été validé par un essai de phase 3 pour aucun de ces syndromes. Ce qu'il faut retenir. Le Covid long n'est pas une anomalie. C'est la dernière itération d'un schéma post-infectieux documenté depuis 1889. Grippe russe, grippe espagnole, poliomyélite, Epstein-Barr, SRA1. Chaque pandémie a laissé une vague de malades chroniques, chaque fois oubliés. Ce que le Covid long a changé, c'est l'échelle. 65 millions de personnes touchées dans le monde ont rendu impossible l'aveuglement collectif. Pour la première fois, les syndromes post-infectieux disposent d'un financement, de cohortes et d'une attention institutionnelle à la hauteur du problème. La prochaine pandémie arrivera. La question n'est plus le savions-nous, mais serons-nous enfin prêts? À retenir en pratique. Si vous vivez avec un Covid long ou un syndrome de fatigue chronique, vous n'êtes pas le premier. Des millions de personnes avant vous ont traversé la même épreuve après d'autres infections. Ce constat ne guérit pas, mais il légitime. Votre maladie a une histoire, des mécanismes identifiés et une communauté scientifique qui la prend enfin au sérieux. En consultation, vous pouvez mentionner les syndromes post-infectieux historiques pour aider votre médecin à replacer vos symptômes dans un contexte plus large. L'article de Blitzstein et al. 2026 ou la revue d'Iwasaki et al. 2025 sont des références solides à partager. Parce que comprendre son corps, c'est reprendre le pouvoir sur sa santé. Information à visée éducative, non substituable à un avis médical individualisé.